Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC Intégrale Rio 2016, Pierre Dorian.
Avec Brahim Masloum, il est minuit et 8 minutes sur RMC, 19h08 ici à Rio. Brahim, on va continuer de parler boxe, mais pas uniquement de boxe. Bien sûr, on reste sur cette médaille d'or de Tony Yoka, mais il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, avec notamment la finale du basket, remportée par les Américains, et la finale du volley. Les Brésiliens sont champions olympiques chez eux, 3-0. Je ne sais pas si tu as pu voir quelques images dans une ambiance de folie.
Non, pas sur cette finale, mais quelques matchs, oui. Alors, pas celui-là, mais ils sont incroyables quand ils se supportent, les Brésiliens. Nous, on a eu la chance de vivre ça. En tout cas, les chances et malchances, parce que c'était contre nous. Mais ils sont incroyables dans l'engouement qu'ils mettent, dans la solidarité qu'ils ont. Ils sont impressionnants. C'est un public assez incroyable.
Alors, les Brésiliens ont 7 médailles d'or, dont 2 en volley, beach volley masculin, et le volley, donc tout à l'heure, avec cette finale face à l'Italie. Alors, on accueille avec grand plaisir Nicole Davis, qui est championne du monde de volley en 2014 et 2 fois médaillée d'argent à Pékin et à Londres. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Oui, bonjour. Parce que Nicole a joué au Canet en France, hein. Pas suffisamment longtemps pour bien parler français, je crois. Donc on va faire l'interview en anglais. Et d'ailleurs, on accueille tout de suite Terence Zaka, qui est le responsable des relations presse d'Atos, avec qui on partage ce pavillon ici au Club France. Bonjour Terence et merci.
Bonsoir, merci à vous.
D'abord, Nicole, sur cette finale des Jeux Olympiques entre le Brésil et l'Italie, ça pouvait finalement pas être une plus belle affiche. Et le volley a été magnifié par cette finale.
So, Nicole, you had the chance to watch the men's finals, and it was a crazy atmosphere. So, what is your opinion about this game?
Yeah, Brazil is the best place in the world to play volleyball. The culture is amazing. The atmosphere is amazing. So, the match was exactly how I expected.
Le Brésil est le pays du volleyball à côté du football, et c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour voir un grand spectacle de volleyball.
Alors, les États-Unis ramènent 2 médailles de bronze, hein, en volley chez les hommes et chez les femmes. Il y a eu un match exceptionnel en demi-finale entre les États-Unis et la Serbie. C'est dans le tournoi féminin, hein. Alors évidemment perdu par les Américaines, mais Nicole, quel spectacle, quel grand match on a vécu quand même, hein.
So the US had a chance to bring back home 2 medals, and with one fantastic game for women's semifinals. What is your opinion about this game?
We had the expectation to play for a gold medal. So when we lost in the semifinal, they were devastated. But they quickly changed their mindset to be able to realize the huge opportunity to play for a bronze medal. And I think they showed just so much character in being able to fight the way they did to win that match.
Évidemment, elles étaient parties pour jouer la finale et jouer la médaille d'or. Elles ont été absolument bouleversées par la défaite, mais elles ont réussi à puiser les ressources nécessaires pour aller chercher cette médaille de bronze qui a une valeur toute particulière.
Nicole Davis, donc, dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC, championne du monde de volley et 2 fois médaillée d'argent aux Jeux Olympiques, ancienne joueuse du Canet en France, qui est notre invitée ce soir. Alors, Nicole, vous étiez dans cette équipe à Pékin et à Londres. Comment vous avez ressenti les choses depuis une position finalement d'observatrice? Parce que je suppose que vous devez connaître les joueuses de cette équipe. Ça a dû être dur aussi de les voir perdre cette demi-finale.
So, Nicole, how is it to see the games since you were part of that team in Beijing and in London? So, is it frustrating or is it something like completely different to be watching your teammates, former teammates?
My teammates are like my sisters, you know. So, for me, it's like watching family, and I absolutely just want the best for them. And I was heartbroken also when they lost in the semifinal. The USA team, we've never won a gold medal, so everything we've done for the last 4 years has been to chase history, the gold medal, you know, and we've done so much work to be a great culture, and so it was difficult to fall short of the objective, but for me, it's just like I want everything for my family, you know, and they're like family.
Mes coéquipières, c'est véritablement ma famille. Donc évidemment, quand elles ont perdu sur le terrain, j'avais le cœur brisé. Et la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de pouvoir les réconforter et être avec elles dans l'esprit sur le terrain. Mais donc, je suis quand même satisfait de leur parcours et fier de ce qu'elles ont accompli.
Alors un mot, Nicole, sur l'équipe de France masculine avec laquelle on avait beaucoup d'espoir et qui malheureusement n'a pas pu se qualifier en quart de finale. Cette équipe a-t-elle le potentiel pour être championne du monde ou championne olympique ?
So, Nicole, here in France, we had great expectations for the men's team for this Olympics. We were a bit disappointed by their performance, but can we expect them to win a big championship, like world championship, anytime soon?
Absolutely. France is one of the most fun teams to watch in the world right now, and also most talented. And they are a young team still. And so I expected them to medal here in Rio, and I think there is just huge potential for the team if they continue like they are.
Oui, tout à fait. L'équipe de France est non seulement agréable à regarder, mais en plus, elle a énormément de talent. Donc, sans aucun doute, c'est une équipe qui va rapporter des médailles et gagner des championnats très rapidement.
Alors, Nicole, il y a un autre aspect qui nous intéresse, nous, Français, dans le sport américain, parce que c'est vrai que les États-Unis gagnent systématiquement ou presque le concours de nombre de médailles. Quel statut on a aux États-Unis lorsqu'on est deux fois médaillé olympique? C'est votre cas. Il y a évidemment Michael Phelps, mais est-ce que les autres athlètes olympiques sont des stars aux États-Unis.
So here in France, we are used to seeing Americans win like 100 medals at each Olympics. So is it like something very spectacular to be an Olympian back in the US when you go back home? Are you like a star or something like this?
No, we're not a recognizable face. You know, I am not a recognizable face. In volleyball, Kerry Walsh and April Ross are very recognizable faces, and just a few players in volleyball. Our country's so big, volleyball is not one of our premium sports because of basketball and football and things like this. So I'm a normal person. If I'm at a volleyball game, sometimes I'll be recognized.
Il y a tellement de grands athlètes et de stars, notamment du basket américain ou du football, que je peux me promener dans la rue tranquillement. De temps en temps, effectivement, quand je vais regarder un match de volley en public, on peut me reconnaître et me demander un autographe.
Et Kerry Walsh, championne olympique de beach volley, hein, si je dis pas de bêtises. Juste un mot justement à ce propos, est-ce qu'on vit de son sport quand on joue au volley aux États-Unis? Est-ce que vous êtes professionnel tout simplement?
Being a volleyball player in the US, or is it are you a professional? I mean, do you make your life out of it?
Yeah, when you're on the national team and playing professionally overseas, you make your life of it.
Oui, je gagne ma vie puisque je joue non seulement dans l'équipe nationale, mais aussi à l'étranger dans des clubs professionnels.
Alors un dernier mot, Nicole, puisque vous êtes passé en France une saison, quelle image vous gardez de la France?
Since you played one season in France, what is one image that you would keep of France?
The beach in the south, yeah, it's just gorgeous. Yeah.
Les plages dans le sud qui sont simplement magnifiques.
Merci beaucoup, Nicole Davis, d'être venue dans le studio de RMC. Et merci donc à Atos. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Atos, c'est l'entreprise française qui fournit toutes les données informatiques, toutes les datas en temps réel et qui nous permettent, par exemple, nous, les journalistes, d'avoir l'évolution des scores, toutes les statistiques, etc. Tout le système informatique des jeux, en fait. Hein. Encore, Nicole.
Merci.
Et merci donc à Terence Zaka pour la traduction. C'est sympa quand même, Brahim, aussi d'avoir les sportifs étrangers qui viennent à notre micro. On a eu Sharon Van Roovendaal l'autre jour, championne olympique d'eau libre. Tout de suite, Nicole, c'est ça les jeux.
Ça montre que les sportifs sont humbles et puis ils aiment bien faire transmettre leur passion et nous expliquer aussi les choses, nous, du côté français. Et c'est des belles championnes.
Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une question que je t'ai jamais posée, toi, Brahim, qui est une star en France. Ta notoriété à l'étranger, dans quel pays t'es connu
En plus, dans les pays francophones, quoi. C'est vrai qu'aux États-Unis, à part le milieu de la boxe, non, le grand public ne me connaît pas, mais voilà, c'est plus dans les pays où on parle notre langue, où on a nos chaînes. mais il y en a tellement que c'est agréable partout.
L'intégral Rio 2016 sur RMC. On continue bien sûr jusqu'au bout de la nuit avec la cérémonie de clôture. Alors on va revivre les meilleurs moments de ces jeux, mais également vous accueillir au 32-16 et sur Twitter. Nous sommes avec Guillaume sur RMC qui a composé le 32-16. Salut Guillaume.
Bonsoir Pierrot, bonsoir Brahim.
Salut Guillaume.
Déjà Brahim, franchement respect, hein, merci pour tout, t'as mis les frissons, hein, c'était super. Donc moi Pierre, je voulais parler un petit peu de ce bilan là de la délégation française. Il y a une sorte d'euphorie générale quant à ces 42 breloques. Moi je suis un petit peu déçu, je trouve qu'on a eu des têtes d'affiche qui n'ont pas répondu de présent clairement. Je suis déçu aussi qu'on soit 4e nation européenne. Seulement 10 titres, on fait quand même moins bien qu'à Londres, et puis 18 médailles d'argent, je trouve ça quand même énorme. Enfin, on n'a pas vraiment cette culture de la gagne qui nous pousse à aller chercher 7 médailles d'or olympiques, ça peut changer quand même pas mal de choses. Donc voilà, par rapport aux forces en présence, je suis un petit peu déçu. J'entendais tout à l'heure, il y avait Denis Masséglia, là, et bon, il est content, hein. J'ai envie de dire, il prêche pour sa paroisse, hein, c'est bien. Mais seulement 10 titres, quoi. 10 titres, je trouve pas ça assez. 4e nation européenne, on fait, ouais, comme je disais, moins bien qu'à Londres. Donc voilà, je pense qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois à Tokyo, et puis pourquoi pas avec Paris 2024 faire un peu comme les Anglais, se relancer et puis repartir pour être vraiment très très fort dans les prochaines Olympiades.
Alors sur le nombre de médailles d'or, je partage à peu près ton avis. En revanche, là où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis des leaders qui n'ont pas répondu présent.
Ah ouais, comment tu peux pas être d'accord avec ça? On a beaucoup de têtes d'affiche qui ont pas répondu présent. La Villeni, Manodou, Besson Ryu, en judo, le Chemeo, Gévry Zeman, ça c'est autant de titres, de chances de titres olympiques qui ont pas été là, quoi.
Alors là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a passer au travers et ne pas être champion olympique. C'est-à-dire que quand Renaud Lavilloni est médaillé d'argent battu par un Brésilien qui bat le record olympique, quand Florent Manodou est battu pour 1/100, ou quand l'équipe de France de handball va en demi-finale, tu peux pas dire qu'ils ont pas répondu présent. Tu peux dire effectivement qu'ils n'ont pas été aussi grands peut-être que la dernière fois, ou aussi grands qu'on les attendait. Mais être médaillé d'argent olympique, Brahim, c'est pas ne pas répondre présent. Enfin.
Non, loin de là. Et quand on regarde les nations qui sont devant nous, c'est quand même des nations qui font plus de 3 ou 4 fois la France, donc voilà, c'est les Américains qui raflent tout, il y a des grosses nations comme la Chine. Alors c'est vrai que quand on organise à domicile, eh ben ça nous permet de préparer toute une génération, d'améliorer nos infrastructures, de donner un plus au sport français, et surtout de voilà, cette génération qui ne connaît pas le très haut niveau, eh ben on lui donne cette possibilité avec des nouvelles infrastructures et un engouement. Donc on a tout intérêt, nous, j'espère, en tout cas je le souhaite, qu'on ait les Jeux en 2024. Ça ferait le plus grand bien à la France, ça permettrait, comme tu l'as dit, par rapport aux Anglais, de relancer le sport. Alors c'est vrai que les Anglo-Saxons, ils ont une culture du sport qui est un peu différente de la nôtre, mais rien n'empêche, hein, à nous aussi de l'inculquer à nos jeunes, de l'esprit de la gagne. C'est vrai que c'est un peu le reproche qu'on peut faire aux Français en général, mais c'est un truc que les Français travaillent, On a une génération qui est beaucoup plus forte, qui est pas plus prétentieuse, parce que j'aime pas le mot, mais qui se dit qu'elle est capable d'aller décrocher l'or. Alors c'est vrai qu'on a quelques champions qui sont malheureusement ont pas brillé comme on le souhaitait, mais sincèrement le niveau de plus en plus est de plus en plus dur. On faut être tolérant, mais c'est vrai qu'à nous de se mettre un coup de pied au cul pour être encore meilleur, c'est tout.
Puis Guillaume, quand même une précision sur Billy Besson, Marie Rioux, parce que eux c'était une chance de... Voilà, après ça, tu n'y peux rien, c'est-à-dire que bon, ils ont tout gagné dans l'Olympiade.
Ouais,
ils étaient favoris au même titre que Teddy Riner, hein, en gros, hein, c'était à peu près les mêmes chances d'être médaillé d'or, sauf que Billy Besson, il a une hernie discale, ce qui est d'abord très douloureux et deuxièmement incompatible avec la voile. Il a quand même voulu disputer ses chances. Tu as peut-être vu l'image, hein, il était transporté jusque sur le plan d'eau dans un fauteuil roulant pour limiter au maximum les efforts et les douleurs. Bon, là c'est pas de chance. On peut pas compter ça dans le bilan, hein. Je veux dire, c'est normalement ils auraient dû être forfaits, hein.
Moi dans le fond, voilà, ce qui me dérange, c'est ça, c'est 4e nation européenne pour un pays comme la France. J'aurais aimé qu'on prenne cette bon, derrière bien sûr les Anglais et les Russes, mais bon, j'espère qu'à Tokyo on pourrait être devant les Allemands. Bon voilà, ça serait bien. Bon, après c'est que mon avis personnel, voilà, c'est comme ça.
Alors l'Allemagne 17 médailles d'or, l'Italie est derrière nous avec 8 médailles d'or. Effectivement, ça c'est des nations auxquelles on peut se comparer, avec la Grande-Bretagne qui a fait un carton. Merci beaucoup Guillaume.
Voilà, tiens, si tu peux me permettre, petite dédicace à Riyad, Naël et Erwan qui m'écoutent, voilà.
Bien entendu, c'est fait. Voilà. Merci à toi, Guillaume. Je vous rappelle donc le dernier titre olympique pour la France, Tony Yoka, en boxe catégorie super lourd. Et puis la fin de la deuxième journée de Ligue 1 aussi, si vous nous rejoignez. La victoire du PSG face à Metz 3-0. Saint-Etienne a battu Montpellier 3-1 et Guingamp a battu Marseille 2-1. Cette nuit, on revit des grandes émotions avec les commentaires d'RMC. Il y a eu une journée totalement magique. Ça a été le 12 août avec 6 médailles, 3 en or, 3 en argent, 2 pour le judo, 2 médailles d'or. L'une était très attendue, celle de Teddy Riner. L'autre totalement inespérée, celle d'Émilie Andéol. Au commentaire, Morgane Maury.
Émilie Andéol qui essaye de libérer son bras droit. Elle le place derrière la tête de la cubaine. Elle la jette sur le dos. Non, pas d'action, pas d'action. Mais elle peut continuer au sol. Elle peut l'immobiliser. Elle l'a immobilisé. Elle l'a immobilisé. Il faut tenir 10 secondes. Et elle sera championne olympique. La française va être championne olympique. C'est un exploit incroyable. Elle a rendu les armes. Il est sorti. Christophe Bastida qui est déjà debout. C'est la plus légère des ballons. Et elle est championne olympique. Elle est sur le dos. Elle hurle de joie. Elle hurle de joie. La fille de Gujan Mestras. Incroyable. Elle est en train de pleurer. Et qui est souvent émotive. Qui craque dans les grands moments. Elle a battu les plus grands de la catégorie. Incroyable. Il y a des supporters français qui sont en pleurs. Idalis Ortiz, la cubaine grande championne. Le visage impassible qui reconnaît sa défaite. Émilie qui sourit. Elle est championne olympique. Des plus de 78 kilos. Les judokas, ils avaient démarré doucement. Mais là, c'est le feu d'artifice. Allons au fond du tatami. 8 secondes. Franck Chambilly qui dit lève-toi. C'est debout. Et range-lui dessus. Il lui fait le geste. Va sur lui. Il ne faut pas s'échapper. Franck Chambilly pour cette remarque. Il se fait lui réprimander par l'arbitre. Allez sur lui. Ne pas sortir du tatami, Teddy. Ne pas sortir du tatami. L'attraper. Le jeter. Dans 2 secondes. Champion olympique. Teddy Riner. Champion olympique. Le doigt sur la bouche. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est tout simplement le meilleur. L'Hercule du judo mondial. Il est français. C'est le meilleur, Arasawa, il n'a rien fait, le Japon est vaincu, aujourd'hui c'est la France qui est triomphante, la France est la reine du dojo, Riner est champion olympique pour la deuxième fois, c'est la bronca dans la salle parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacle dans cette finale, mais une victoire tactique, victoire de Teddy Riner, champion olympique qui s'incline devant son adversaire, qui frappe dans ses mains, le poing serré, qui fait craquer ses biceps, il est champion olympique, le porte-drapeau français a répondu présent, ce capitaine de l'équipe de France a dirigé le navire vers la médaille d'or.
Teddy Riner, donc champion olympique le même jour que Émilie Andéol, la magie des jeux, Brahim. Hein. Émilie Andéol, est-ce que tu connaissais son nom, juste son nom avant la compétition?
Non, faut être honnête, mais on a appris à la découvrir et c'est une belle surprise. Je sais qu'elle faisait partie des 3-4 meilleurs. Elle était série 5 et voilà, elle a su saisir cette opportunité, être prête. Voilà, c'est des choses olympiques, encore plus dans le judo, faut être prêt le jour J. Nous, une compétition, c'est sur 15 jours, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bravo à elle et voilà, c'est aussi la magie des jeux, c'est qu'on arrive à découvrir aussi des athlètes qu'on n'attendait pas ou qu'on ne connaissait pas beaucoup. Sincèrement, je suis pas étonné en fait. C'est chaque Olympiade, il y a des surprises. Les athlètes se surprennent et c'est une compétition qui est un peu à part par rapport à un championnat d'Europe ou un championnat du monde. C'est autre chose, c'est magique, c'est faut mettre les tripes.
Est-ce que tu penses qu'elle a pu entre guillemets bénéficier de la protection entre guillemets de Teddy Riner ce jour où tout le monde avait les yeux braqués sur Teddy? Elle a fait une magnifique compétition hein, parce qu'en plus elle a battu des filles qu'elle
a battu du monde, rarement,
en leur mettant des hippons hein.
Teddy, avec tout le respect que j'ai pour, certes il a insufflé dans cette équipe de France une force, mais le job c'est elle qui l'a fait. Elle a bien fait. Je pense que la championne olympique et championne du monde en face d'elle, elle s'en foutait qu'il y avait Teddy Riner les braqués sur eux, quoi.
Non, donc, mais ce que je veux dire, c'est que tu es dans une euphorie, il y a Teddy qui passe ses tours, le public français qui est là.
Non, parce que chacun fait sa finale, chacun fait son match et on fait abstraction. Sincèrement, je pense vraiment pas, quoi.
Alors Teddy Riner donc champion olympique pour la deuxième fois, ça aurait été donc le seul à conserver son titre hein, pour l'équipe de France dans ces
comme
jeux.
Comme quoi, c'est pas aussi facile que ça de conserver son titre. Hein.
Exactement.
Il y a une pression qui est énorme. Tout le monde t'attend, t'es l'homme à abattre. C'est une difficulté qu'on n'arrive pas à percevoir parce qu'elle se perçoit pas en fait. Tu peux pas la palper. C'est un truc qui est spécial. Il y a il y a que le champion qui arrive à gérer, un grand champion pour gérer ça, quoi.
Alors finalement, en réfléchissant, on en a pratiquement un à chaque fois. C'est-à-dire ici à Rio, c'est Teddy Riner. Il y a 4 ans à Londres, c'était les handballeurs.
Ouais.
En 2008, est-ce qu'on en a eu un en 2008
En 2008, on a eu
Julien Absalon.
Ouais.
En 2004, Estanguet, absolument. Et en 2000, David Douillet. Tu vois, et en 96, Marie-Josée Pérec.
Ouais.
On va aller loin comme ça, hein.
Ouais.
92, je pense pas. 92, j'étais petit quand même.
Moi aussi, je commençais à m'intéresser au sport.
En 92, je me souviens de Sébastien Flûte, au tir à l'arc.
Exactement. Mais ouais. Moi, j'étais petit, je regardais pas encore vraiment les jeux. Je me suis intéressé aux jeux à partir de 96, en fait. Et en fait, c'est en regardant les Jeux Olympiques à la télévision, j'ai vu des boxeurs, je me suis dit, dans 4 ans, je vais être là.
Et 4 ans après, tu y étais.
Et ouais, j'ai eu la chance.
T'as commencé la boxe en quelle année?
94-95.
Donc
j'étais champion de France 95. Et en 96, je rentre à l'INSEP. Et 4 ans après, je deviens champion.
Comment t'es venu à la boxe?
Par hasard, en fait, dans un club, mon club de ma ville, quoi, Léo Lagrange, il y avait un grand de mon quartier qui boxait à l'époque, qui était un peu la star et qui était en passe de rentrer en équipe de France. Et puis on nous a offert des places. Et j'y suis allé avec un de mes grands frères. Et puis je vois un petit jeune. En fait, je suis pas tombé amoureux du grand. En fait, c'est plus de la boxe du petit. Il y a un jeune qui avait 8 ans. Il pratiquait la boxe éducative. Donc c'est basé sur des touches. Donc on avait pas le droit de taper fort. Et je sais pas. Ce jeune m'a bluffé techniquement. J'ai vu 1500 personnes se lever pour lui. Je sais pas. J'ai été fasciné par sa prestation. Et le lendemain, je suis allé m'inscrire. Et puis voilà. Au bout d'un an, j'étais champion de France scolaire. Et puis je me suis accroché à ça.
Ton petit frère Redouane fait aussi de la boxe. Il y en a d'autres dans la famille?
Non. J'étais pas pour, en fait. C'est dur quand c'est ta famille, ton frère. C'est un sport dur quand même, la boxe.
Tu
le conseilles? Non, moi je suis le quatrième.
D'accord.
Mais je suis celui qui a commencé la boxe. Mon petit frère Edouane a fait, d'ailleurs, génial, parce qu'il a été 5 fois champion de France. Il a participé aux Jeux Olympiques d'Athènes juste après moi. Donc lui, il avait une pression. C'était le frère 2 dans la même catégorie. Sincèrement, j'aurais pas aimé être à sa place à ce moment-là.
Brahim Assoum, donc, dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC. Alors, on vous attend au 32-16. On vous attend aussi sur Twitter pour débriefer ces Jeux Olympiques jusqu'à la cérémonie de clôture. C'est dans 1h30 maintenant avec Gilbert Bribois. Oui, on n'y arrive plus. Là. Les décalages horaires, c'est terminé. Là, on dit n'importe quoi, Brahim. C'est pas grave. Il y a aussi tous ceux qui sont contents du retour du foot et du retour de l'after. Ne vous inquiétez pas, vous allez être servis tout au long de l'année sur RMC. Alors,
on peut les comprendre. Ils sont fans de foot et puis tant mieux. Tant mieux, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et puis voilà, j'espère que cette Liga va être performante et qu'on aura des beaux matchs, des grands joueurs et des gens qu'on va découvrir encore plus et qui vont briller durant ce championnat.
Phelps va faire quoi après les Jeux, nous demande Lutz avec le hashtag RMC Live, quand on a tant gagné une vie sans défi à relever, je lui souhaite d'en trouver. C'est vrai que pour Michael Phelps, retrouver l'adrénaline, ça va être impossible.
C'est compliqué. C'est déjà, son parcours est incroyable, d'avoir arrêté d'être venu aussi fort. Est-ce qu'il aura l'envie de continuer? C'est une vraie question. Peut-être qu'il aura envie de développer autre chose. Des projets vont peut-être se présenter à lui, qui s'embarquera dans un projet énorme et aussi fort que ses médailles, quoi. Maintenant, à lui de mettre à contribution ce qu'il a apporté.
Brahim Assoum dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC. Vos questions à Brahim avec le hashtag RMC Live. Dans un instant, on va revivre la médaille d'or de l'épée par équipe. L'escrime n'avait plus touché l'or depuis 8 ans et surtout était reparti bredouille des Jeux de Londres. À tout de suite dans l'intégrale Rio 2016 sur RMC.
RMC intégrale Rio 2016, Pierre Dorian.
On est avec Brahim Assoum en direct du Club France où on attend les derniers médaillés pour fêter leur médaille une dernière fois. Le handball, médaillé d'argent, et Tony Yoka, médaillé d'or. Il devrait passer ce soir, c'est prévu, hein, donc il n'y a pas de souci. Une belle fête à venir pour Tony Yoka. Heureusement qu'il y a cet or, parce que sinon on resterait sur une grosse désillusion avec le handball, hein.
Comme quoi la boxe est présente jusqu'à la fin et heureux, bien sûr, que ma discipline ramène cette dernière médaille d'or et qu'on reste sur une bonne note. Et quel beau champion on a, sincèrement. Je l'ai dit suffisamment, mais je vais le redire encore. Je jure, on a un des plus grands champions que la boxe n'ait jamais eu. Donc soyons fiers et soutenons-nous. À nous de les soutenir.
24 ans, hein, donc
ouais, il a plein de marge, une grosse marge de progression.
Tiens, il y a une question pour toi, Biran Akagomak 1. Brahim, à quand votre rendez-vous au ministère des Sports? C'est quoi cette histoire?
Non, j'ai pas de rendez-vous. Ah, non, j'ai pas de rendez-vous.
Alors, cela dit, Thierry Breyer a annoncé tout à l'heure la création d'une ligue professionnelle de boxe. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Je sais que c'est un vieux fantasme en France.
C'est des effets de manche.
Voilà, ça a déjà été fait.
Ouais,
sans résultat.
Fait, mais la ligue a toujours existé en réalité. Mmh. Il invente rien.
Mais quel est l'intérêt
Il veut la remettre au goût du jour. Pourquoi pas? Mais pas besoin de faire des effets de manche. Pas besoin d'en faire tout un pataquès. Et en plus, elle est pas prête. Elle devait être prête pour le mois de janvier. Les boxeurs vont encore perdre 6 mois parce qu'elle n'est pas prête au mois de janvier. Il dit qu'il y a encore 6 mois de retard pour qu'elle soit appliquée. Donc, qu'est-ce qu'on propose à cette nouvelle génération qui vient de sortir des Olympiades? Donc, comme quoi on n'est pas prêt. Sincèrement, il a bien plus la photo que les choses concrètes. Et bon, moi, ça me fatigue parce que voilà, ça fait tant d'années que la boxe le subit. J'espère qu'on va un peu plus la respecter parce qu'il y a 6 médailles d'or, 2 de bronze, 2 d'argent et 2 d'or. On est un record dans les disciplines, toutes disciplines confondues. J'espère qu'on fera des choses concrètes. Mais à un moment donné, c'est plus l'assistant du ministre qu'autre chose. Il n'a pas de budget. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'avance? Ouais, mais c'est ok. À partir du moment où t'as pas de budget dans un ministère, tu n'existes pas.
Patrick
Canner. Donc t'es là, tu t'assistes quand le ministre n'est pas là. C'est ce qu'il fait.
Alors, cela dit, rappelons quand même que ces sportifs, ces boxeurs olympiques ont la possibilité désormais de faire des combats pro sans perdre leur statut de boxeur amateur, même si on ne dit plus amateur, et donc de refaire les Jeux olympiques dans 4 ans. Donc c'est pour ça quand même un peu plus simple sportivement.
Oui, mais c'est là où c'est pour ça que sa commission. Elle m'embête un petit peu. J'étais en confrontation avec lui parce que j'ai essayé de lui expliquer en lui disant si tu peux retarder la commission, viens, je t'explique concrètement ce que c'est que la nouvelle réforme de l'IBA. Et à partir de là, on la décortique et on regarde. Au lieu de me mettre la lumière dans une commission qui va pas aboutir ou voilà, c'est de réchauffer, bien, on met de la lumière sur un truc qui descend de l'international, qui est le futur de la boxe. Et à partir de là, voilà, on construit réellement quelque chose pour la boxe. On réintéresse tous les entraîneurs. Tous les entraîneurs de club, tous les boxeurs, et voilà, on reconstruit quelque chose de solide, de sensé, de juste, et pas nous emmener dans un terrain vague et nous faire croire parce que dans 6 mois il est plus là.
L'intégrale Rio 2016 sur RMC, on continue de revivre les grands moments de ces jeux avec la médaille d'or qu'attendait l'escrime depuis 8 ans. Elle est venue de l'épée par équipe.
43-30, c'est joué pour l'équipe de France. 2 touches pour finir en apothéose. Enlever le masque, crier sa joie, chanter la Marseillaise. 43-30 pour l'équipe de France. 44-30, Yannick Morel qui enlève son masque. Il l'a transpercé, le D'Artagnan français. 44-30, à une touche du bonheur. Hugo Bric avait été si malheureux en 2000. Il n'avait pas pu donner le titre olympique aux Français alors qu'il était devant. C'est la grande déchirure de sa carrière. Et Hugo Bric a pourtant été champion du monde en individuel. Champion olympique ensuite en escrime. Il aurait pu réaliser un doublé incroyable. 44-30, c'est la dernière touche. La touche de l'histoire. La touche de l'histoire est simultanée. La France est championne olympique. L'Italie est à terre. Ils se sautent dans les bras. L'histoire de l'escrime, elle s'écrit pas en bronze. Elle s'écrit pas en argent. Elle s'écrit en or. Ces garçons sont des géants. Hugo Bric qui va quitter l'équipe de France. Il repart avec la médaille d'or. Quel champion ces garçons. Quel champion les numéros mondiaux. Ils ont assuré. Ils ont piétiné les Italiens 45-31. Ils se tapent dans les mains. Ils félicitent leurs adversaires. C'est la Marseillaise aussi dans les tribunes. L'escrime, l'épée, c'est le territoire de la France. Ça appartient aux Français. Messieurs, vous ne rentrez pas sur le podium olympique sans nous passer sur le corps.
Voilà pour Morgan Maury donc aux commentaires. Alors 2 médailles quand même hein, pour Gauthier Grumier, l'or par équipe et le bronze en individuel. Rodolphe Massé qui avait commenté l'escrime il y a 4 ans et il y a 8 ans, bah, il n'a pas commenté.
Non,
hein, cette fois-ci.
C'est Morgan Maury qui l'a fait très très bien et Nicolas Jamard effectivement.
Heureusement hein, qu'il y a ces médailles et notamment cette médaille d'or parce que la crise était très importante il y a 4 ans à Londres. On va pas dire que tout est réglé mais bon, les résultats c'est quand même l'essentiel et notamment les résultats aux Jeux Olympiques.
C'est la vitrine, évidemment, comme pour beaucoup de sports olympiques, la vitrine, c'est tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Alors c'est vrai que l'Olympiade avait été nettement meilleure pour l'ensemble de l'escrime française. Il y a eu beaucoup de choses de remise à plat. Il y a eu un très bon boulot fait par le DTN, le directeur technique national Christian Peters. On a changé de maître d'armes et c'est vrai que tout le monde s'est remobilisé. On avait senti cette équipe de France d'escrime arriver ici à Rio avec des ambitions et les objectifs de 3 médailles ont été atteints. Il y en a une en or. Alors c'est vrai qu'on comptait comme d'habitude d'habitude beaucoup sur l'épée masculine parce que c'est l'arme forte en France. On était champion olympique par équipe en 2004. On était encore champion olympique par équipe en 2008. Il n'y avait pas eu d'épreuve par équipe à l'épée en 2012. Ceci explique aussi le zéro pointé de 2012. Et c'est vrai que Gauthier Grumier, en individuel, il a décroché le bronze. Certains diront, c'est pas terrible pour Gauthier Grumier. Il était numéro un mondial. Il venait pour l'or. À voir la réaction de l'épéiste qui va tirer sa révérence, Gauthier Grumier. Il était très content d'avoir cette médaille d'argent, de décrocher enfin une médaille individuelle, une médaille olympique individuelle. Et puis, on n'oublie pas non plus l'argent des fleurettistes par équipe. Mais c'est vrai que cette épée masculine, ce collectif autour de l'entraîneur Hugo Brie, on voyait pas comment ça pouvait se terminer autrement que sur la plus haute marche du podium. Ils avaient tout remporté pendant l'Olympiade ou presque, sauf le dernier titre mondial il y a un an, les titres européens, les titres mondiaux. Hugo Brick avait des choix de riches à faire puisqu'il avait 6 ou 7 tireurs de très haut niveau. Je vous rappelle quand même que ici à Rio, Hugo Brick s'est passé du dernier champion du monde individuel de l'épée homme, Ulrich Roberi. Il avait été champion du monde.
Et en finale, il avait remplacé son numéro 1 mondial qui n'était pas performant ce jour-là, Gauthier Grumier.
Par Jean-Michel Lusnet, qui était le doyen de l'équipe. Jean-Michel Lusnet, lui aussi, c'est une des belles histoires de ces Jeux Olympiques. Privé de la médaille d'or en 2008 à Pékin, parce que seulement remplaçant, il n'avait pas pu tirer. Du coup, il n'avait pas pu avoir sa médaille ni monter sur le podium. Là, non seulement il a tiré en finale, mais il a bien tiré. Et ils sont montés tous les quarts sur le podium. Donc, clairement, pour l'escrime, ces Jeux Olympiques 2016 sont ceux, on va pas dire de la renaissance, mais en tout cas l'escrime le plus gros pourvoyeur de l'histoire olympique en termes de médailles, le compteur était resté bloqué à 115 à Londres, on est passé à 118. Ça a été un gros soulagement pour
tout le monde. D'ailleurs, c'est l'occasion d'apprendre deux, trois choses. Alors, c'est des chiffres, on aime bien. On aime bien les chiffres.
Un quiz.
C'est pas tout à fait un quiz, mais l'escrime et le cyclisme se partageaient la première place en nombre de médailles d'or, mais largement devant tous les autres sports. Du coup, l'escrime est repassé devant avec 42 médailles d'or désormais, 118 au total. Le cyclisme, c'est 41 médailles d'or et 91 au total. Donc, c'est vraiment les deux sports olympiques les plus pourvoyeurs de médailles pour la France. Alors, c'est vrai que l'escrime est au programme des Jeux depuis toujours.
Depuis le début, oui.
Ce qui n'est pas le cas du judo, qui est un autre gros pourvoyeur, par exemple. Mais l'athlétisme, qui est aussi au programme des Jeux depuis la Renaissance en 1896, n'a rapporté, entre guillemets, que 69 médailles et 14 en or.
Oui, alors après, il faut quand même aussi se rendre compte que pendant des décennies et jusqu'aux années 70, l'escrime n'était pas pratiqué partout sur la planète.
Oui,
Il y avait 5 pays européens qui se disputaient les médailles, la Hongrie, l'Italie, un peu l'Allemagne, évidemment l'URSS
et la France.
Les podiums se partageaient entre ces pays-là. Depuis, ça s'est internationalisé. On a vu des médailles africaines, on a vu des médailles sud-américaines depuis 2008. Il y a eu un titre olympique pour un Vénézuélien, il y a eu un titre olympique pour un Égyptien. Ici à Rio, il y a eu la première médaille pour une Tunisienne, la compagne d'ailleurs d'Erwan Lepechou. Enfin, voilà, l'escrime s'est internationalisé, ça explique quand même cette répartition des médailles et aussi pourquoi la France a plus de mal à exister dans le concert international aujourd'hui. Mais c'est vrai que il fallait obtenir des médailles parce que l'escrime française est en dessous des 60 000 licenciés. Faut espérer que le petit coup de boost de ces Jeux Olympiques 2016 permette à la Fédération française d'escrime de repartir de l'avant, qui est une fédé qui n'a pas beaucoup de moyens pour travailler. Et bon, je profite ici de l'occasion quand même, et je pense que Brahim sautera aussi dessus pour saluer le boulot des entraîneurs dans ces Jeux Olympiques et dans ces disciplines olympiques. On parle toujours des athlètes et c'est normal de parler des athlètes, mais les entraîneurs, ils ont quand même une part de réussite très importante dans
les sports aussi spécifiques
et dans ces sports-là
ou la boxe.
Je pense évidemment à Hugo Brie qui est un véritable meneur d'hommes. Quand tu parles avec ses tireurs, ils te disent tous on va se mettre nénette, on va se mettre les tripes à l'air pour lui parce qu'il nous fait croire qu'on peut y arriver. Moi, ça m'avait marqué Gauthier Grumier qui un jour avait dit mais moi Hugo Brie, si là à côté de l'INSEP il me demande de me jeter du pont sur l'autoroute A4, je le ferai. si c'est en faisant ça que je serai champion olympique, je le ferai, quoi. Et voilà, c'est des vrais meneurs d'hommes. Malheureusement, Hugues, il va partir vers de lointaines contrées désormais. Il va aller entraîner les épéistes chinois comme d'autres avant lui. Christian Bauer pour les sabreurs, il a fait l'Italie, il a fait la Chine, maintenant il fait gagner la Russie. Daniel Levavasseur qui lui s'occupe d'athlètes plus que de nations. Laura Flessel qu'entraîne une italo-brésilienne. Voilà, Hugo Bry est parti à l'étranger. Il y a encore des ressources en termes d'entraîneurs, mais je pense que Brahim, c'est important quand même de souligner ce travail des entraîneurs. C'est pas eux qui montent sur les podiums, mais dans les sports olympiques.
C'est tout comme. Alors c'est vrai que c'est pas eux qui sont devant de la scène, mais sincèrement, sans eux, on est incapable de faire le dixième de ce qu'on fait. C'est eux qui nous coachent au quotidien, c'est eux qui nous motivent au quotidien quand on n'est pas bien. C'est eux qui prennent la pression pour nous, c'est eux qui essaient de transmettre leur expérience, mais serait-ce que sportif, mais aussi humainement. Voilà, de plein de choses de la vie. En général, quand on est avec des coachs, on commence une carrière jeune. Donc, il y a aussi en dehors de l'éducation familiale, il y a aussi une éducation de la part de ces coachs qui transmettent le meilleur. Ils nous prennent comme leurs enfants, et c'est vrai que malheureusement, ben ils sont pas toujours récompensés à la juste valeur, ils mériteraient même des médailles. Mais bon, après c'est comme ça malheureusement. Mais les sportifs, c'est à nous en tout cas de leur rendre à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers voilà, ils demandent rien de plus qu'une reconnaissance en réalité.
Ouais. Tiens d'ailleurs Brahim, puisqu'on était dans les sports pourvoyeurs de médailles, est-ce que tu sais à peu près où se trouve la boxe?
Je sais pas. À chaque Olympiade, on doit faire 2-3 médailles.
Alors, grâce à cette édition exceptionnelle, la boxe vient de passer devant le tennis.
Yes.
Du 14e au 13e rang, quand même, des sports pourvoyeurs de médailles. On en est à 25, dont 6 titres olympiques. Et donc, devant le tennis, qui est à 22 médailles, dont 5 titres olympiques. Alors, la boxe aussi est au programme des Jeux depuis fort longtemps, mais il n'y a pas toujours eu autant de catégories. Hein. C'est pas un sport non plus où il y a beaucoup de médailles à prendre, non. Forcément. Hein.
Et la France n'est pas spécialement une nation dans la boxe. Voilà, on a eu des périodes, on marche par période, mais c'est vrai que c'est pas la nation phare de la boxe. On a des nations comme les États-Unis, comme le Mexique,
Cuba,
les Russes raflent. En fait, ceux qui se partagent réellement les plus grosses médailles sont les Russes et les Cubains. Puis après, le reste du monde, les Américains en prennent 2-3. Et puis le reste du monde, on se partage un petit peu ce qui reste, quoi.
Alors tiens, il y a une question pour toi, Brahim. C'est quoi le programme de Tony Yoka? Nous demande Bon Martel. Alors je suppose qu'il parle du programme sportif,
si je me réfère à ce que moi j'ai vécu. D'ailleurs, les deux, trois premiers mois, il va y avoir beaucoup de sollicitations médias. Il faut le faire parce que ça fait partie aussi du jeu. Il va y avoir plein de contacts, des choses qui vont tenir la route, d'autres moins. Mais il faut prendre aussi du plaisir, savourer tout ce qui va se présenter. Jusqu'à la fin de l'année, en réalité, c'est que du bonheur pour les athlètes. Il y a les fêtes qui vont arriver, donc ils vont être très sollicités. Il faut qu'ils décompressent. Ils sont pas à 3 mois ou à 4 mois près. Hein. Et puis, je pense qu'après, à partir de janvier, février, mars. Voilà, ça sera le moment, et dans ces 3-4 mois, il va y avoir aussi des négociations pour leur contrat, de savoir ce qu'ils veulent faire, et c'est dans les rangs olympiques, est-ce qu'ils passent professionnels, et s'ils passent professionnels avec qui, quels sont les engagements, les contrats. Ça va se faire dans les 3-4 mois, surtout il va y avoir 2 mois quand même agités. Et puis janvier, février, moi je me rappelle, j'avais fait mon premier combat professionnel le 29 janvier 2001. Donc voilà, j'étais champion olympique le 30 septembre. Voilà, il s'est passé 3-4 mois de sollicitation. Il y a eu 2-3 mois de préparation pour revenir en tout cas en forme. Et voilà, je pense que c'est ce qui va se présenter pour Tony.
Minuit 45 sur RMC, c'est l'intégré de Rio 2016 qui se poursuit d'ici une vingtaine de minutes. C'est le début de la cérémonie de clôture. Et alors, on accueille avec grand plaisir le chef de délégation, président de la Fédération Française de Natation, monsieur Francis Luis. Salut Francis.
Bonsoir.
Ça va, les Jeux se terminent en beauté hein, avec cette médaille d'or.
Écoutez, franchement, on avait annoncé un succès pour l'ensemble de la délégation à l'occasion de la cérémonie de J-100. D'aucuns avaient souri, autant que je puisse m'en souvenir. Voilà, aujourd'hui, c'est un record absolu avec 42 médailles. Voilà, un grand succès pour l'ensemble de la délégation. Petit regret, c'est ne pas avoir battu le record des 15 médailles d'or, ok, avec un certain nombre de succès, on va dire les choses comme elles sont. Mais cette équipe est tellement merveilleuse que lors de la conférence de presse ce matin, je l'ai félicité, je l'ai remercié. C'est un enthousiasme, et en particulier puisque j'ai un des représentants les plus émérites de la boxe française, pour dire combien ça nous a fait plaisir que cette boxe française soit au rendez-vous des Jeux de Rio. Mais encore une fois, félicitations à l'ensemble de cette délégation. Et un coup de chapeau à au porte-drapeau, qui a joué un rôle exceptionnel tout au long de cette quinzaine, qui a été vraiment celui qui a fondé un esprit d'excellence, de rigueur, de respect. Un très grand bravo. Un très grand bravo.
Alors d'ailleurs, Teddy Riner sera le porte-drapeau de la France ce soir lors de la cérémonie de clôture. Parfois on change, hein. C'est pas forcément le porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture. Parfois on met à l'honneur un athlète qui a brillé, ou alors quelqu'un qui prend sa retraite, ou quelqu'un qui est emblématique pour X raisons du sport olympique. Pourquoi cette décision d'ailleurs, Francis?
Moi, je crois qu'il a simplement enthousiasmé la cérémonie d'ouverture. On s'en souviendra. Tout le monde avait les yeux fixés sur cette délégation française. On a vu l'enthousiasme, la grandeur que représentait le fait que cet athlète soit le porte-drapeau. Et je pense qu'unanimement, toutes les athlètes ont souhaité qu'il garde cette mission au sein de cette équipe de France. Il est le porteur de ses valeurs. Et je crois que ce soir, dans le joli bordel qui est une cérémonie de clôture, il sera à la hauteur, je dirais, des espérances de cette France qui aujourd'hui a le sourire à l'occasion de ce bilan.
Et c'est une manière de le récompenser pour tout ce qu'il a fait. Il s'est mouillé, il est parti voir tous les athlètes, il a créé une vraie cohésion, comme le dit le président. Voilà, franchement, c'est bravo pour tout ce que tu as fait. Kiffe cette dernière grosse soirée, elle est aussi à toi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a souligné, garder son titre, c'est pas rien. Bravo, il mérite.
Alors, je voudrais aussi adresser mes compliments à l'ensemble de ceux qui ont rendu les choses possibles. On parle souvent des athlètes, mais aussi il faut parler de l'encadrement, il faut aussi parler des dirigeants des fédérations, ok, qui ont accompagné tout au long de cette préparation, je dirais, les athlètes, et aussi l'équipe du Comité National Olympique et Sportif Français. On les oublie un peu souvent, mais les administratifs, le service médical, le service logistique, tout ça c'est une équipe de cohérence qui fait qu'aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs en conférence de presse ce matin, pour gagner les Jeux Olympiques, il faut gagner une guerre. Maintenant c'est un vrai combat, il faut pas se faire des illusions, on n'est pas des bisounours, même si on nous cite comme étant les pleurnicheurs de ces Jeux de Rio 2016, ça je ne le crois pas. Je crois simplement qu'on a été ici avec un véritable esprit de conquête et que ces athlètes et tout l'ensemble des 400, des 800 personnes ici présentes au sein de cette délégation, dans un club France d'ailleurs magnifique qui a attiré, je crois, plus de 100 000 visiteurs. Je crois qu'aussi ça fait partie de cette image qui qualifie la France comme étant un candidat pour les Jeux de 2024, excusez-moi, pour gagner aussi la possibilité d'organiser les Jeux en France avec, je dirais, des talents futurs et avec l'exemple de ceux qui ont été les talents des Jeux Olympiques précédents. Et tiens, encore une fois, la boxe.
D'ailleurs, Brahim, juste un petit détail sur l'actualité de cette dernière journée, le titre de Tony Yoka. J'ai vu que les Britanniques râlent contre la décision que eux voyaient leur champion vainqueur.
Ils peuvent continuer à râler.
Non, mais c'est juste pour dire que voilà, quand on a chaud, quand on a perdu ça, parfois, on conteste, c'est bien naturel.
Hein. C'est pas, il n'y a pas Tony à gagner, il n'y a pas des kilomètres, mais il gagne son combat. Ils regarderont à froid le combat et se rendront compte que voilà, c'est juste et ils féliciteront le Français.
Non, mais on peut, je veux dire, à chaud râler.
Ça.
Voilà, après, il y a peut-être des limites aussi.
Tu as raison. Passer, hein.
Mais, non, bien sûr, on est entièrement d'accord. Ce que je veux dire, on peut excuser une réaction à chaud.
Bien sûr.
Simplement, il faut aussi savoir rendre hommage à l'adversaire, comme on fait les handballeurs français ce soir. Hein. Ah, tiens, président, puisque vous êtes aussi le président de la Fédération française de natation, on est en train de lister, de donner des infos à nos auditeurs sur l'histoire des Jeux, de la France et des Jeux, les sports les plus pourvoyeurs de médailles. Alors, la natation est très bien placée parce que elle est certes huitième si l'on compte le bilan par médaille d'or, argent, bronze, mais elle est cinquième en nombre de médailles. Hein. La natation qui s'est réveillée, entre guillemets, ces dernières années et ces dernières Olympiades pour ramener des médailles à la France, a brillé dans le passé avec d'autres grands champions. Hein.
Oui, mais écoutez, ne soyez pas inquiet, même si on a les pieds au fond à l'occasion des Jeux de Rio, je voudrais, c'est vrai, féliciter les médailles françaises au titre de la Fédération française de natation. Nous allons maintenant, comme un tremplin, si vous voulez, voilà, hop, rebondir pour Tokyo 2020 et Paris 2024, et nous allons faire le bilan de ces Jeux, voilà. Comparaison n'est pas raison, je le dis souvent et je le répète, aujourd'hui nous allons nous remettre au travail, nous allons tenir compte des échecs qui ont été ceux, en partie, de la natation française sur un certain nombre d'éléments.
Tiens, on avait Fabien Gillot tout à l'heure dans notre studio, hier plutôt, qui nous a dit que lui, il était prêt à s'investir un peu dans tous les domaines, mais qu'il veut rester dans le sport et qu'il veut rester proche de la natation.
Ça, c'est génial.
Vous avez déjà discuté de quelque chose avec lui ?
Absolument. Absolument. Fabien a annoncé sa retraite. Ça a été un grand capitaine. Il a une expérience, je dirais,
enfin, il va encore faire les bons vieux petits bassins au mois de décembre et après, ça sera terminé.
Oui, il va encore s'amuser un petit peu, hein, ok. Puis après, il va se mettre au travail avec la Fédération Française de Natation, car je crois pouvoir le dire, on a besoin d'athlètes qui vont progressivement apprendre leur métier. Être dirigeant d'une fédération, c'est un métier. Ça s'apprend, c'est ok. Vrai. Donc, j'ai sollicité, effectivement, Fabien Gillot pour qu'il réfléchisse à la possibilité qu'on va lui donner de prendre des marques. Voilà, il va prendre ses marques au sein de la Fédération Française de Natation et pourquoi pas un jour peut-être finir président de la Fédération Française de Natation.
Bon, on peut pas lui souhaiter autre chose. En tout cas, c'est une bonne chose qu'il reste dans le giron et qu'il reste proche de l'équipe de France.
Je peux souligner, je vous félicite président parce que c'est pas toutes les fédérations qui ont cette vision et c'est bien pour les athlètes parce que ça leur permet de se dire je mouille le maillot pour mon pays, je travaille pour mon pays et puis un jour je serai peut-être amené à jouer un rôle dans les instances et c'est malheureusement il y a une époque où on fermait la porte aux athlètes. Aujourd'hui vous la réouvrez, sincèrement bravo, chapeau. Je sais que l'athlétisme fait pareil, le président, et voilà, c'est quelque chose qui est génial, qui va donner espoir à notre jeunesse et à nos athlètes.
On ne parle bien que de ce qu'on vit. Et lorsqu'un athlète a eu la chance d'avoir une carrière internationale, quel que soit le sport, je pense que nous sommes bien inspirés, nous qui tentons finalement progressivement à quitter nos missions respectives eu égard à l'âge que nous avons. Ok, il faut préparer l'avenir. Alors, avec des jeunes talents.
Francis Luce, on va donner une information aussi à nos auditeurs parce que ça a été un des moments difficiles de ces Jeux. La disqualification d'Aurélie Muller en eau libre, elle avait touché deuxième et elle a été disqualifiée. Son appel a été rejeté par le TAS. Hein. C'est une information qui a été peu développée parce que c'est arrivé quelques jours après sa compétition et puis en plein pendant les dernières médailles hein, distribuées à Rio. Il n'y a plus aucun espoir qu'elle récupère une médaille. Hein.
Non, nous avons voulu aller jusqu'au bout de notre raisonnement. Nous avons considéré que cette disqualification était injuste. La Fédération internationale a déjugé d'ailleurs la démarche de la Fédération française de natation, estimant que le tribunal administratif du sport, arbitraire du sport, n'avait rien à voir si vous voulez dans ce type de décision. Si vous voulez bien le communiqué qui a été fait après la décision du tribunal arbitral du sport, ok, c'était de considérer que notre démarche était recevable, contrairement à ce que ces messieurs de la Fédération internationale de natation peuvent penser, mais que néanmoins ils confirmaient la disqualification d'Aurélie Muller, ce que je dis, répète et que je continuerai de penser, c'est une disqualification injuste, mais Aurélie Muller méritait d'être vice-championne olympique du 10 km féminin.
Alors juste un mot là-dessus pour terminer, est-ce que cette mésaventure qui est pour l'athlète évidemment terrible peut entraîner une modification du règlement, ou au moins une demande de modification du règlement, parce que ce que le grand public ne peut pas comprendre, c'est qu'une athlète sanctionnée pour une faute, si elle a fait faute, elle peut être sanctionnée. Pourquoi n'est-elle pas rétrogradée derrière l'adversaire qu'elle a gêné, puisqu'on est à la fin de la course et que de toute façon personne derrière n'aurait pu revenir sur la concurrente italienne et française. Est-ce que il est envisageable que le règlement soit modifié à l'issue de ces Jeux Olympiques?
La Fédération française de natation a d'ailleurs l'intention de proposer des modifications de règlement lors du congrès de la Fédération internationale qui se tiendra à Budapest au mois de juillet. Soyez persuadés que c'est pour nous une excellente leçon. Mais on n'aime pas trop prendre des leçons qui finalement sont de nature à défavoriser les athlètes qui auraient mérité largement d'avoir plus de considération à l'égard de la décision qui a été prise. C'est un point du règlement d'ailleurs qui doit être revu, mais aussi j'insisterai sur le fait que l'organisation matérielle a été aussi défavorable à Aurélie Muller dans les circonstances qui consistaient effectivement, à ce que ce qui a été prévu comme démarche pour matérialiser l'arrivée n'était pas conforme au règlement de la Fédération internationale.
Alors ça, malheureusement, maintenant que le cas a été jugé par le TAS, on ne reviendra plus dessus. Mais c'est vrai que c'est une histoire terrible de ces Jeux, Brahim, parce que pour Aurélie Muller, ça restera comme une terrible déchirure dans sa carrière.
C'est une plaie qui mettra du temps à se refermer et après c'est à nous, instance, de l'aider à essayer de la cicatriser de la meilleure des manières, en la considérant, en l'aidant. Mais voilà, vous savez, quand mon petit frère Radouane a perdu aux Jeux Olympiques, je vous jure, j'avais pas de mots. La seule chose que j'ai pu lui dire, qui est le plus profond de moi, c'est mon petit frère, on peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Maintenant, essaie de regarder ce qu'il y a devant toi et prends du plaisir avec ce qui reste à faire.
Francis.
Aurélie Muller est une fille excessivement intelligente. Je pense que c'est une bonne leçon dont elle va se servir pour l'avenir. Et si j'ai un vœu à formuler, c'est qu'elle soit présente à Tokyo en 2020.
Est-ce qu'elle vous en a parlé? Est-ce que vous en avez parlé avec elle?
Nous en avons parlé avec également son mentor, ô combien célèbre, Philippe Lucas, qui effectivement est tout à fait de notre avis quant à la possibilité de continuer d'accompagner Aurélie Muller dans les 4 prochaines années pour qu'elle soit à Tokyo en 2020 et qu'elle fasse la démonstration la plus, je dirais, exceptionnelle à ces messieurs de la Fédération internationale de natation en montant sur le podium sur la première marche des Jeux Olympiques de 2020.
Alors finissons justement par un hommage à nos entraîneurs. On en parlait tout à l'heure avec Rodolphe Massé pour l'escrime. Philippe Lucas, qui a sa personnalité, son caractère, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a quand même des résultats exceptionnels parce qu'il faut expliquer que les deux athlètes qui termine en tout cas dans l'eau, première et deuxième, à savoir Sharon van der Hoevendaal et Aurélie Muller avant d'être disqualifiée, sont toutes les deux entraînées par Philippe Lucas. Hein. Donc de la compétence, il y en a encore. Donc ça doit vous donner des espoirs pour rebondir rapidement avec l'équipe de France de natation. On entre peut-être quand même, Président, même si on est dans l'euphorie de fin de jeu, dans une période qui peut être plus difficile pour la natation française. Hein. On l'a quand même senti sur ces Jeux Olympiques. Hein. Faut pas s'attendre à revoir des campagnes comme Londres très rapidement, forcément. Hein.
Demain sera un jour nouveau. Je peux vous dire que nous allons travailler pour faire en sorte que les quelques détracteurs que nous avons, qui se sont exprimés sur un certain nombre de sujets sur lesquels ils auraient fait mieux de se taire d'ailleurs.
Vous pensez okay. à qui? À Alain
non,
Bernard
pas rappel... Non, surtout pas. Non.
Parce que j'ai ça a chauffé trop entre Alain Bernard et Romain Barnier.
Non, j'ai beaucoup trop de respect pour un champion olympique.
Non, mais après, c'est pas une question d'être détracteur ou pas détracteur. Il y a un bilan à faire. Le bilan est moins bon qu'il y a 4 ans, point barre. C'est pas. C'est la réalité, c'est tout.
Bien hein, sûr, ça va pas mais... plus loin. Ça, hein. Nous n'en disconvenons pas. Nous allons effectivement maintenant, avec les cadres techniques, faire en sorte de pouvoir évaluer la manière dont les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. Nous avons donné tous les moyens de la préparation depuis les Jeux de Londres, si vous voulez, à cette équipe de France. Nous avons suivi les propositions des directeurs techniques successifs, parce qu'il faut quand même aussi se rappeler que ça n'a pas été une période facile pour le président de la fédération, après le regret que j'ai exprimé déjà dans d'autres circonstances du décès de Christian Donzet, le passage rapide de Lionel Orter et l'arrivée de Jacques Favre. Bon, ok, moi je veux bien avoir tous les torts du monde, mais ceci étant, je ne pense pas que nous ayons à rougir du bilan de la Fédération française de natation dans son ensemble. Donc nous allons travailler pour relever le défi.
Merci Francis Luis d'être venu à notre micro. Merci aussi en tant que chef de délégation. Les Jeux se terminent avec 42 médailles pour la France. L'objectif étant de battre le record de 41 médailles. Objectif atteint, 10 médailles d'or, 18 médailles d'argent, 14 médailles de bronze. Alors ils ne seront pas tous dans le stade ce soir pour défiler lors de la cérémonie de clôture, mais il y en aura un certain nombre. Merci Francis Luis. Et avant de passer le relais au Maracana, on va revivre encore un très grand moment de ces Jeux pour l'équipe de France, la médaille de bronze de Christophe Lemaître sur le 200 mètres.
C'est parti pour la finale du 200 mètres masculin. L'excellent départ d'Usain Bolt qui va avaler Christophe Lemaître dans ce couloir numéro 7. Usain Bolt qui enchaîne et qui va sortir en tête du virage. Allez Christophe, il est dans les temps, il peut se battre. Déploie tes jambes Christophe, t'as foulé, arrache-toi. Lemaître Bolt, champion olympique du 200 mètres. Il est crevé par la troisième.
Et Bolt est champion.
Bolt champion olympique, 19 secondes, 78 centièmes pour Usain Bolt qui égale sa meilleure perte de la saison, 8e médaille d'or pour la foudre qui a encore frappé
deux grâces. André de Grâce, deuxième.
20 secondes, 0-2, attention, Christophe Lemaître est devant nous.
Lemaître, il est médaille de bronze.
Médaille de bronze.
Il est médaille de bronze, Christophe.
Olympique, Lemaître.
Ça y est, il a fait.
Les poings en l'air, un Français.
Il l'a fait dans le même centième qu'Adam Gemelli, le Britannique.
20 secondes 12 pour Christophe Lemaître, il a longé de tout son long sur la piste bleue de Rio de Janeiro. Il se relève, un Français, Christophe Lemaître, la consécration. Il a été critiqué pendant 5 ans depuis son record personnel.
La voilà, ta revanche, Christophe.
En 2011, il répond à toutes les critiques. Christophe Lemaître, il ne revient pas. Il est médaillé de bronze, le Français.
Il est médaillé de bronze, Christophe Lemaître, et c'est une médaille historique, rappelons-le, depuis 1960. On n'avait pas ramené de médaille olympique sur le 200 mètres. Vous écoutez l'intégrale Rio 2016 sur RMC, il est 1h du matin.